C'est ça, j'ai présumé là, que Gus a fait ça, là, là, au lieu de mettre lui, là, mais bon. Je sais que la dernière fois, je pense que ça va pas bien marcher. Ça prend l'expert. Parfait, c'est bon. Tout est là. Parfait, super. Merci, Jonathan. Ça me fait penser quand que, hein, les plus jeunes, les autres, ils ne connaissent pas ça. Ils ont grandi avec les ordinateurs. Ils arrivent, il y a des ordinateurs. Quand j'étais jeune, là, les enfants grandissaient. Là, on s'est dit, quand moi et Linda, on va acheter un ordinateur pour les enfants. Ça fait que là, ils viennent poser l'ordinateur le soir. Monsieur pose ça, je regarde ça. Ça fait que là, lui, il devait aller faire d'autres livraisons. Ça fait que, il part. Là, il laisse ça comme ça. Ça fait que là, après ça, j'ai dit, là, je regarde l'ordinateur, je dis, hey, comment qu'on ferme ça? Je ne savais pas. Ça fait que là, j'ai pris le fil, là, comme ça, là, puis là, ben, dans le mur, puis là, j'ai déplugué l'ordinateur. Ça a fermé. Puis le lendemain, ben, j'ai appelé un frère pour lui demander, là, comment qu'on fermait l'ordinateur. Donc aujourd'hui, au moins, je sais comment l'ouvrir puis le fermer. Puis faire d'autres petites affaires aussi. Hein. Ça fait que, merci d'être là. C'est toujours une joie de venir en avant, de pouvoir apporter la parole. Puis, c'est sûr peut-être que le titre, vous vous demandez un peu de... Hein, c'est un peu bizarre, là, on ne voit pas ça souvent, ce genre de titre-là, mais je pense que vous allez comprendre. Puis ça va avoir toute sa pertinence tout à l'heure. Ça fait que, on va passer au suivant. Donc ici, je vous ai mis une définition d'un mot. Ça fait que je vous invite à le lire, puis dites-moi un peu ce mot-là pour vous, cette définition-là, vous diriez quel mot est rattaché à ça. Épreuve, persévérance, c'est sûr que c'est rattaché à, effectivement à ça. Hein? Si on vit des épreuves, est-ce que ça se peut qu'on on va éprouver ça? Hein? On parle d'un sentiment, c'est un sentiment de perte de motivation ou un sentiment, une perte d'espoir qui résulte d'un échec ou d'une difficulté. Puis, qu'est-ce que ça fait? Bien, caractérisant une absence de volonté à persister dans une activité ou un projet. Aha, hein? C'est le découragement. Quand on vit du découragement, bien, habituellement, bien, c'est une définition du mot découragement. On a tout un peu notre histoire. C'est quoi qui est rattaché à ça? C'est quoi l'épreuve? C'est quoi la difficulté? Ça, c'est personnel. Mais on est confronté à ça. C'est de même qu'on va se sentir. Puis le découragement, qu'est-ce que ça fait? Ou le risque de se décourager, c'est quoi ça va faire? C'est qu'on va abandonner. On va baisser les bras. On va laisser faire. On va dire, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de... Ça ne donne rien de continuer. Pourquoi je continuerais? Ou bien des fois, on a l'impression qu'on est tout seul à faire quelque chose. Personne autour ne le fait. Comment vous vous sentez quand vous êtes dans cette situation-là? Ce n'est pas facile. Donc, effectivement, c'est le mot pour le mot découragement. Donc, ce matin, bien, on va poursuivre. On avait commencé le 9 juin dernier, bien, une étude dans Hébreux, chapitre 12, verset 1 à 3. Ça fait que ceux qui ont une Bible, bien, puis vous voulez ouvrir dans Hébreux 12, bien, vous allez avoir directement les versets. Je vais les mettre sur... on aime toujours ça les mettre, là, si vous nous visitez ou bien... vous n'avez pas de Bible, bien, au moins vous pouvez regarder et suivre. Donc, ça dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hein, » on vient de voir, quand on est découragé, est-ce qu'on a de la difficulté à persévérer? Ça peut nous emmener à ça. Pourtant, ici, l'auteur, lui, il veut nous encourager à courir avec persévérance. Il nous dit d'avoir les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hein, il dit d'avoir les regards au verset 3, il dit maintenant, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. » Prions. Hein, Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes ce matin. Merci pour notre frère aussi, Seigneur, qui est venu nous parler de toi dans sa vie. Et Seigneur, encore, on veut se tourner vers toi pour cette nouvelle journée. Et Seigneur, bien, peut-être que ce matin, bien, nous sommes découragés. Peut-être que nous vivons quelque chose de difficile. Quelque chose qui nous ralentit, Seigneur, dans notre marche avec toi, dans notre course avec toi, comme nous sommes appelés à faire. Et Seigneur, bien, à travers tout ça, bien, tu veux nous encourager. Parce que le vrai chemin, c'est de te suivre, Seigneur. Le vrai chemin, c'est de continuer notre course avec toi, en se reposant sur toi, en espérant en toi. Et Seigneur, ce matin, bien, tu veux nous faire du bien à travers ce qu'on vit. On vit dans un monde difficile, Seigneur. On est éprouvé pour toutes sortes de raisons et on trouve ça dur, bien souvent. Alors, Seigneur, merci de vouloir encore relever nos têtes ce matin, nous aider à avoir notre regard vers toi, rempli d'espérance, Seigneur, rempli de joie. Alors, bénis ce temps que tu vas nous donner à travers ta parole. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, comme je disais, bien, à la fin, bien, c'est ça, tout ça est dit, dans le fond, pour ne pas se retrouver l'âme découragée. Alors, le découragement est quelque chose, comme je disais, de présent. On l'a tout expérimenté. Peut-être ce matin, on est découragé aussi pour différentes raisons. Il faut se dire que c'est normal. À cause du fait qu'on ne vit plus dans le jardin d'Éden. Hein? On est confronté, là, depuis la chute d'Adam, on vit dans un monde difficile. Hein? On ouvre la télé, on est confronté, on ouvre la radio, les journaux, les nouvelles, c'est toujours du négatif, c'est toujours des drames, c'est toujours des gens qui perdent leurs emplois, un meurtre ici, un vol là, de la violence. Ça fait qu'on est confronté à ça, puis nous-mêmes, dans nos vies personnelles, bien aussi, on vit des choses, parce qu'on vit avec des personnes, on vit avec des gens aussi qui, bon, on espère que les gens avec qui qu'on est aussi pensent à nous, mais souvent, on est centré sur nous-mêmes, on pense à nous-mêmes, on veut atteindre nos objectifs, nos buts, s'il faut tasser le monde, on va tasser les gens. Ça fait qu'on souffre. Ça fait qu'il faut l'accepter, ça fait partie de notre vie. Mais on trouve ça difficile, puis on a le droit de dire qu'on n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça souffrir, puis je suis sûr que vous n'aimez pas ça non plus. Mais le Seigneur veut nous encourager ce matin, comme il nous dit. Nous sommes appelés à courir avec persévérance. Hein? La course, c'est sûr, là, c'est une image, l'image d'un athlète qui court. Ça fait que pour courir, bien souvent, il faut se mettre en forme aussi. Hein? Ou le fait de courir, bien, produit les deux. On veut être en forme, donc on va courir. Et quand on court, bien, on reste en forme, tout ça. Ça fait que cette idée-là de course, bien, on comprend que la parole de Dieu, bien, nous dit que dans le fond, notre marche avec le Seigneur, notre vie avec le Seigneur, Ce n'est pas simplement une marche, mais c'est une course de longue haleine. On va dire que c'est comme un marathon qu'on fait. Ça fait que des fois, dans un marathon, bien, des fois, il y a des moments qu'on se sent bien, puis d'autres moments, on trouve ça plus difficile, parce que là, notre corps souffre. On est éprouvé. On commence à manquer d'énergie. Il fait chaud ou il fait froid, il pleut, on a le vent d'en face. Ça fait qu'un peu toutes ces choses-là bien, nous affectent d'un point de vue, comme je dis, c'est une image. Ça fait que dans la vie, quand on vit des choses, c'est un petit peu ça. On est confronté à des éléments difficiles qui nous affectent. Et puis le Seigneur, ce matin, il veut nous aider. Par exemple, bien, on connaît l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4:7. Bien, Paul fait un peu le bilan de sa vie avec le Seigneur et il dit ceci, il dit « J'ai combattu le bon combat ». Hein, il a compris qu'il était dans un combat. Nous, ce matin, nous sommes dans un combat aussi. Il dit « J'ai achevé la course ». Hein, c'est comme dans n'importe quoi. Hein, c'est, je ne sais pas si des fois vous vous êtes déjà, disons, au jour de l'an, des fois, ben, peut-être dans le passé où vous avez déjà dit « Bon, je vais prendre des résolutions. Hein, » des fois, c'est un temps, là, on dit « là, je vais changer des affaires, je vais améliorer mon alimentation, je vais m'entraîner, tout ça. » Ça fait que là, on s'entraîne, on va dans un centre de conditionnement, on va s'inscrire, puis bon, un mois après, on a arrêté tout ça. On a perdu notre motivation. Ça fait que Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Nous, ce matin, le Seigneur nous encourage à persévérer. Quelles que soient nos difficultés, il veut qu'on continue, puis il veut nous encourager à continuer dans tout ça. Alors, c'est très important. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai resté attaché au Seigneur. J'ai resté attaché à qui il est, à ce qu'il fait, à ce qu'il me montre, à ce qu'il veut que je fasse pour le suivre. Alors, c'est ça ce matin, c'est un rappel pour nous aussi de dire, bien, le Seigneur nous encourage à continuer à le suivre, à persévérer, quelles que soient les difficultés. Donc, nous sommes appelés à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hein? C'est notre vie, c'est ce qui est devant nous. Qu'est-ce que le Seigneur met devant nous? Alors, nous sommes invités à aller vers ça avec le Seigneur avec nous. Donc, ce matin, comme je disais, bien, quelle épreuve êtes-vous confronté actuellement? Quelle difficulté êtes-vous confronté actuellement? Que vivons-nous aujourd'hui? Et pour nous aider justement à ne pas se retrouver l'âme découragée, bien l'auteur nous dit au verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Donc, la dernière fois qu'on s'était vu, bien, on avait couvert une petite partie du verset 1. C'est qu'aujourd'hui, bien, on va essayer de faire un autre petit bout ce matin. On ne fera même pas tout ce qui est là. On va continuer. Donc, je vous invite, bien, pour pas non seulement dire, ah, je ne me souviens pas où j'étais là, mais je ne m'en souviens plus beaucoup. Bien, vous avez le site de l'Église. C'est notre frère Maurice qui s'en occupe. On le remercie. Et puis, il y a différents enseignements, même de notre frère Étienne qui était là. On a des invités qui viennent. Ça fait que des fois, vous n'avez pas pu être là. On vous encourage à aller écouter les enseignements ou réécouter parce que nous sommes des auditeurs oublieux. Moi-même, j'oublie. Ça fait que j'ai besoin de renouveler tout ça. Donc, on a la possibilité de revisiter. On a manqué quelque chose. Alors, je vous invite à le faire sur le site de notre Église. Et c'est sûr qu'on ne reviendra pas, hein? Les témoins, nous sommes entourés ou environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc, ce n'est pas des gens nécessairement qui nous regardent, hein? Parce qu'un témoin, ça peut être une personne qui a été témoin de quelque chose. Ou ça peut être quelqu'un de qui on va regarder, nous, cette personne-là. Elle a un témoignage, en fait, à rendre. Ça fait qu'un peu, les témoins qui sont là, bien, ils ont un témoignage rendu, un témoignage de foi. Parce que nous sommes invités à courir, à persévérer dans la foi Et le chapitre avant, bien le chapitre 11, où ce qu'on voit différents acteurs de l'Ancien Testament, bien on voit que l'auteur de l'Épître va souvent prendre un point dans la vie de cette personne-là, puis faire ressortir la foi de cette personne-là. Donc, on est invité à lire le chapitre 11. Quand on le lit, bien, on peut se poser cette question-là. Qu'est-ce qui est présent dans la vie de cet homme ou cette femme de l'Ancien Testament qui a fait que cette personne-là, elle a couru la course? Elle est restée dans la foi. Donc, on avait vu différentes personnes. On avait vu, en fait, trois personnes. On avait vu Abraham, Sarah et Moïse. On avait lu un peu les passages. Et puis, on s'était en fait posé quelques questions à la fin. Donc, quand on lit ça un peu, moi, quand je lis ça, je me dis, ah, OK, moi, ça va m'aider à dire, est-ce que ça se peut que ce que l'auteur nous parle de ce personnage-là de l'Ancien Testament, c'est un élément qui est faible dans ma vie? Puis s'il est faible, bien, ça peut expliquer que je suis découragé. Au bout de la ligne. Puis, une des questions bien, qu'on s'était posées, par exemple, bien, quand on regarde Abraham, hein, il disait que sa cité, la cité, bien, c'était pas sur cette terre. Est-ce que ça se peut qu'on a perdu ce focus-là? Ou c'est sûr, c'est pas facile à expérimenter parce qu'on vit sur la terre. L'auteur ici n'est pas en train de dire là, faut négliger la terre puis s'il n'y a rien de bon là-dedans, là, c'est pas ça. Je pense qu'on doit, comme notre frère a fait, être reconnaissant. Hein, on vit au Québec. Hein, j'écoutais notre frère, c'est vrai que je me dis, j'aurais de la difficulté à vivre en Afrique sûrement, avec les choses qui sont présentes. La reconnaissance. Hein, est-ce que je suis reconnaissant? On peut être reconnaissant de vivre sur cette terre, de la grâce que Dieu nous fait. Mais on sait qu'il va y avoir quelque chose d'infiniment plus grand et meilleur. Mais ça, c'est dur de se l'imaginer. Mais on a besoin de se le rappeler parce qu'on vit des moments difficiles. Hein? Est-ce que nous avons perdu le focus que notre cité n'est pas sur cette terre? Fait que si on a perdu le focus, ça peut expliquer peut-être pourquoi je vis du découragement quand je suis sur cette terre et que je vis les difficultés de cette terre. Parce que mon ancre, c'est pas Dieu souvent. Hein? Mon ancre, ça peut être ma sécurité financière, ça va être ma santé, ça va être... C'est toutes des choses qu'on veut, mais des fois, on perd ces choses-là. Puis là, après ça, on est découragé. Mais encore là, c'est normal. Mais comment qu'on peut ressortir gagnant de ça? Bien, c'est de revenir à la base. Donc, comme je dis, quand vous allez, si vous réécoutez le message, bien, ça va vous aider un petit peu plus à comprendre plus le contexte. On n'a pas tout le temps. L'autre question qu'on s'était posée, bien, ça, c'était en rapport avec Sarah, que est-ce que c'est possible, comme Sarah, que nous sommes chancelants de notre assurance sur la fidélité de Dieu? Parce que c'est marqué qu'elle, elle n'avait pas bronché. On sait qu'à broncher. Hein? Des fois, on bronche, mais c'est ça, à leur rester attaché. Est-ce que nous, des fois, on lutte avec la fidélité de Dieu? On lutte avec la fidélité de Dieu. Ça fait que ça nous affecte. Ça nous décourage. Hein? Comme on dit souvent, des fois, peut-être ça fait longtemps, vous priez pour des choses. Vous attendez encore. Dieu, es-tu fidèle? On se pose des questions des fois. On lutte avec ça. Puis c'est ça que je dis, bien c'est ça qu'entre nous, frères et sœurs, bien quand on se parle des fois, bien on ne devrait pas avoir honte de dire « j'ai de la difficulté avec ça ». Parce qu'on n'est pas là pour montrer qu'on est meilleur que les autres. On ne l'est pas meilleur que les autres, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. On vit des difficultés, on vit du découragement, on lutte avec des questions des fois. Bien, d'avoir une oreille qui nous écoute, qui nous comprend, puis qui peut nous aider, on a besoin de ça. L'autre élément à considérer, bien, est-ce que nous avons baissé les gardes et que nous nous enlisons tranquillement dans le péché? Hein, parce que Moïse, lui, il a fait le choix de ne pas aller là-dedans. Puis ce matin, on va regarder ça un petit peu, le péché. Donc, on comprend que quand on s'enlise un peu tranquillement, bien, ce n'est pas pour notre bien. Ça va nous emmener des problèmes. Ça va nous emmener dans le découragement. Donc, les questions, bien, c'est toujours important de se les poser, de réfléchir à ça et de prier sur ça. Je vais revenir à la bonne page. Je vais juste mettre ça aussi pour que je l'aie prêt. L'auteur nous dit au verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, donc les témoins qui sont là, de par leur témoignage de vie, un témoignage de foi, bien, nous sommes environnés de ça, donc on doit tirer profit de ça dans nos vies personnelles, comme j'ai mentionné. » Il dit « Rejetons maintenant, puisqu'on est environné de ça. » Là, il nous donne une directive. Il dit « OK, vous avez des modèles de personnes de foi. Ils ne sont pas parfaits, comme nous, on n'est pas parfaits. Mais il y a des choses qu'ils ont vécues, puis qu'on est appelés, nous aussi, à vivre comme eux, puis qu'on peut vivre comme eux. » Maintenant, il dit « Toi, là, OK, tu peux aller voir dans le passé avec ces modèles-là, mais toi, actuellement, qu'est-ce que tu peux faire? » Pour ne pas te retrouver l'âme découragée au bout. Il dit, bien, maintenant, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement, si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, on va regarder ça ce matin, ce petit bout-là. C'est sûr, hein, quand on lit ça, là, c'est comme je dis toujours aux gens, là, quand on lit la parole de Dieu, idéalement, c'est de comprendre qu'est-ce que l'auteur a bien voulu dire à ces gens-là. Parce que nous autres, on les interprète avec nos lunettes à nous. Ça fait que là, on tire des conclusions, on comprend ça d'une façon erronée. Ça fait que là, on pourrait se dire, quand l'auteur a dit ça, là, les gens qui lisaient ça, là, ces Hébreux-là, qu'est-ce qu'ils comprenaient? Donc, c'est important à la base de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire à ces gens-là. Puis comment nous, on peut le comprendre aujourd'hui et l'appliquer. Puis comme je dis, des fois, le danger, bien, on prend un verset, « Ah, qu'est-ce que tu écris ça? » Oui, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. On ne comprend pas le contexte. On ne comprend pas l'histoire en arrière. Donc, ça, c'est important. Donc, ce matin, on va se demander un petit peu, bien, qu'est-ce que vivaient bien ces Hébreux pour que l'auteur, pourquoi qu'il prend ces deux points-là? Il aurait bien pu prendre d'autres choses. Il aurait dit peut-être, oublie pas d'aller tantôt à la soupe populaire, manger des hot dogs, puis hein, être avec les gens, peut-être qu'il aurait pu dire ça. Non, il n'a pas dit ça. Donc, on va regarder ça. Tout d'abord, lorsqu'on lit tout l'épître, hein, puis c'est vrai que des fois, là, j'arrive moi, au chapitre 12, avant, il y a des chapitres. Là. Ça fait, qu'est-ce que l'auteur a bien voulu dire là-dedans, de quoi qu'il traite pour nous aider à comprendre? Donc, on voit tout de suite que quand on regarde toute l'épître, bien, l'auteur, c'est sûr, on voit que si vous avez déjà lu Hébreux, c'est beaucoup rattaché à l'Ancien Testament. Parce qu'on utilise beaucoup de choses de l'Ancien Testament. Donc, par exemple, il traite avec détail le tabernacle, les sacrificateurs, les sacrifices de l'Ancienne Alliance aussi, tout en faisant, bien sûr, le lien avec la personne de Jésus-Christ. Hein, c'est ça qui est important. L'ancienne alliance, c'est bien, mais il y a quelque chose de meilleur. Il y a une personne meilleure aussi. Et il fait ressortir la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et son œuvre, bien sûr, à la croix, pour démontrer que Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir, qui a même traversé un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Hein, c'est marqué qu'il a traversé le ciel avec son propre sang. Donc, il est entré dans le ciel avec son propre sang afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu dans le but de nous amener une rédemption éternelle, de nous pardonner de nos fautes, de nos péchés. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait ça. Déclarant ainsi l'ancienne alliance vieillie et la remplacer par la nouvelle alliance qui a été faite par son sang, cette nouvelle alliance qui a débuté. Une alliance plus excellente parce qu'établie sur de meilleures promesses. À la lecture d'Hébreux, on peut facilement déduire aussi que l'auteur était, comme j'ai dit, un juif qui s'adressait à des juifs, puisque le livre est basé sur la compréhension du judaïsme. Et à la lecture de l'Épître, bien, on commence à se rendre compte que possiblement certains croyants juifs avaient commencé à expérimenter possiblement une pression terrible de leurs proches, de leur famille, de leurs amis. Un peu comme Enan, là, son père, là, il dit « tu ne vas pas à l'église ». Hein? C'est-à-dire, ces gens-là avaient une pression possiblement terrible, donc de leur famille, de leurs amis. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait chez ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne fréquentaient plus le temple comme avant, pourquoi ils ne participaient plus aux fêtes aussi que Dieu avait instituées dans l'Ancienne Alliance, pourquoi ils parlaient de Jésus et croyaient en lui. Alors, on peut avoir cette expérience-là sûrement nous aussi là. Un jour, on s'est tourné vers le Seigneur, on a compris qu'on était perdu, on avait besoin d'un sauveur. Puis là, on a parlé à nos familles, à nos amis, puis là, hop, hein, on sait aujourd'hui, quand on parle de la température, ça va, si on parle du Seigneur, des fois, la face, ça change un peu. Ce n'est pas toujours des sujets faciles ou un sujet facile. Probablement, plusieurs de ces croyants juifs avaient été exclus de leur famille et avaient perdu peut-être leur ami, travail, et là-dessus, on peut les comprendre. Toutes ces pressions ont commencé à avoir un impact sur eux. Et pour diminuer cela, certains ont probablement commencé à retourner peut-être à des vieilles coutumes juives dans le but d'être acceptés. En fait, que je continue, mettons, d'aller à l'église, mais en même temps, je continue d'autres choses aussi, dans le but un peu de faire baisser la pression. Donc, tout au long du livre, bien comme j'ai dit, l'auteur démontre la supériorité de Jésus-Christ. Son sacrifice parfait qui sauve parfaitement et cette nouvelle alliance qui est supérieure à l'ancienne et de Jésus lui-même qui est le garant de cette alliance plus excellente. Donc, l'Épître est vraiment dirigé envers ces croyants juifs pour leur dire de ne pas retourner à leur ancienne croyance. Parce que ce qu'ils avaient fait dans le passé, hein, dans les Écritures, c'est marqué que c'était une ombre des choses à venir encore meilleures, qui est le Seigneur. Donc, pourquoi retourner à quelque chose qui a eu sa place, qui a fait son temps, mais maintenant, bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est important. Donc, c'était leur lutte, c'était leur lutte. Donc, de ne pas retourner à leur ancienne croyance, aux anciennes coutumes hébraïques, même de participer là, aux fêtes, hein, ces fêtes qui étaient excellentes et très belles, mais dans le fond, le Seigneur, lui, avait tout changé ces choses-là, dire, oh, vous n'avez plus besoin de faire ça. Vous n'avez plus besoin de faire ça. Et de prendre surtout position pour Jésus-Christ. On peut penser aussi qu'il y avait peut-être des Juifs qui fréquentaient le lieu de culte, les croyants, qui aimaient ce qu'ils entendaient. Hein, ils venaient, puis c'était différent. Il y avait une prédication, il y avait des chants, il y avait Maurice qui se promenait avec un tambourin. Ah, Maurice, l'autre semaine, c'était super. Hein? Non, mais c'est ça, des fois, on vient puis on est excité par ce qu'on entend puis ce qu'on voit. Puis c'est bien. Mais le Seigneur, il veut qu'on fasse plus que ça. Hein? Mais hein, c'est comme des gens peuvent nous visiter puis ils aiment être là. Pour ce qui se dit, ce qui se passe, l'ambiance, puis on peut nommer plein d'affaires. Puis c'est bien, là. Mais l'auteur veut que les gens prennent position. On peut être ici, puis on n'a pas pris position pour le Seigneur. Hein, on comprend des choses, mais... Hein, Enam qui disait, bien, puis Brian aussi, donner notre vie au Seigneur. Se tourner vers lui, comprendre qu'on est perdu, comprendre que sans lui, on ne peut rien faire. Puis il n'y a personne qui va changer ça à part lui. Ça commence par là. Reconnaître un besoin. Hein, monsieur, je n'étais pas là la semaine passée, là, monsieur Street, hein, dans Jean 7, il dit, « Si quelqu'un a soif, c'est quoi le point de départ? Il faut avoir soif. Si moi, je n'ai pas soif, je n'ai pas besoin de Dieu. Tout va bien. Il faut commencer par avoir soif. Le Seigneur s'adressait, « As-tu soif? » Bien, viens à moi. Tu n'as pas soif? Tu ne viendras pas. Il faut avoir soif en partant. Donc, ces gens-là étaient invités à se tourner vers le Seigneur pour le pardon de leur péché et le suivre, eux aussi par la foi, eux aussi d'entreprendre cette course, de courir avec persévérance, tout en sachant que le Seigneur est là, nous aime, prend soin de nous. Ils étaient comme sur une clôture et n'avaient pas fait le saut vers Jésus-Christ vraiment. Et on peut penser peut-être, bien, entre autres, ils avaient peur. Hein? Ils voyaient un peu ce qui se passait avec ceux qui avaient pris position. Ils disaient, hey, moi, ça ne me tente pas là, de vivre ça avec ma famille, ça ne me tente pas de vivre ça avec, perdre mon travail peut-être potentiellement. Mais je vais profiter de l'ambiance, j'aime ça. Je suis accueilli, on me parle bien, on me donne du blé d'Inde le midi. Ça fait que donc l'auteur un peu veut s'adresser à ces gens-là. Donc il y avait beaucoup de raisons personnelles, hésitant en mesurant le coût de leur engagement envers le Seigneur. C'est ça que des fois on oublie aussi, hein, c'est que se tourner vers le Seigneur, hein, il nous disait à un moment donné, c'est dans Luc 14, il dit, ben gars, c'est comme construire quelque chose. Avant, idéalement, c'est que tu fais tes plans, tu regardes comment ça coûte avant de partir ta construction. Parce qu'il y a un engagement là-dedans. Ça fait qu'il y a un engagement à suivre le Seigneur. Donc, ces gens-là hésitaient à s'engager vraiment pour le Seigneur. Donc, c'est pour cela que l'auteur, justement, au chapitre 12, invite ces groupes-là à prendre position, de ne pas tourner le dos à Jésus-Christ, mais plutôt d'embarquer dans la course, de mettre une fois pour toutes leur foi en lui, car la course, c'est de vivre la vie chrétienne par la foi. Et à ceux qui ont mis leur foi, l'auteur les encourage à courir avec persévérance. Donc, certains de ces croyants, peut-être, avaient arrêté de courir pour des raisons de persécution et ils étaient retournés en arrière sur certaines choses, et d'autres, bien, eux autres avaient à prendre position, justement, pour le Seigneur. Donc, nous sommes appelés un peu, voici un peu en gros le contexte. On pourrait aussi voir que c'est une église, on va le voir un petit peu plus tard, là, je saute un petit peu trop vite. Donc, nous sommes invités aujourd'hui, nous, là. Le Seigneur nous parle un matin, il nous dit, rejette tout fardeau. Rejette tout fardeau. Parce que ça nous empêche de courir. C'est quoi un fardeau? Bien, ce n'est pas nécessairement de supporter, hein, parce que le mot fardeau, il est retrouvé juste une fois là. Hein, ce n'est pas de supporter les fardeaux les uns les autres, ce n'est pas ce mot-là. C'est un autre genre de fardeau. Puis le mot, en fait, ici, il est retrouvé une seule fois, on dit qu'il fait référence à une protubérance, donc à une bosse, à quelque chose là, qui prend place, quelque chose qui nous encombre et qui nous ralentit ou qui nous arrête tout simplement. Ça nous empêche d'avancer, tout à fait. Et ça, bien sûr, ça a l'allure parce qu'on parle de course. Hein? Si on court avec des palmes d'homme grenouille, ça va mal. On va courir, mais ça va nous ralentir. C'est pas sage de courir avec des palmes. Idéalement, c'est de se mettre le plus léger possible, si on peut. Hein? Si vous avez déjà écouté Le Seigneur des Anneaux, un peu dans le premier film, en fait, quand, que, on va dire, la communauté est un petit peu brisée parce que Frodon puis Sam, ils vont partir ensemble, puis ils sont attaqués par des orques, puis là, ils partent avec Pipin, entre autres. Puis là, bien, Légolas, puis tout ça, après, là, ils se disent, faut les rattraper. Ça fait que là, il dit quoi? Il dit, on va laisser ici tout ce qui va nous empêcher de courir. On va emmener le strict nécessaire. Ça fait que dans le fond, on devrait courir avec ce qui est nécessaire, mais pas s'encombrer d'autres choses. Malheureusement, on s'encombre de d'autres choses souvent dans la vie. On va regarder ça un peu. Qu'est-ce que l'auteur veut bien nous dire là-dessus? Donc, c'est ça. Si je vous demanderais un peu pour vous, quelle idée que vous avez de ça, là, ce fardeau-là que vous devez mettre à la porte, si on peut dire, là, avez-vous une idée pour vous? Ça serait quoi, là, un fardeau qui vous encombre dans votre marche, dans votre vie avec le Seigneur? OK. Perdre le lien. Okay. Ouais. Avec eux? Oui, oui, ça c'est sûr, gars. Mais tu sais, je veux dire, ça, je dirais, c'est une conséquence de ta foi en Jésus-Christ. La famille, des amis ne te comprennent pas, puis t'abandonnent ou ne te parlent plus. Fait que tu sais, ça, c'est pas un fardeau qui t'empêche de courir. Je veux dire, c'est une conséquence de ta foi. Robert? OK. Oui. OK. D'accord. C'est intéressant. Hein? C'est intéressant. Est-ce que vous vous identifiez un peu à ça, hein? Quelque part? On lutte tout avec ça. On ne veut pas déplaire, on veut... Fait que, mais le Seigneur veut nous construire là-dessus. Hein? Il veut nous aider à travailler là-dessus. Vouloir vivre selon le monde, OK. Ça peut être effectivement un point intéressant aussi, Maurice, à vivre selon le monde. En fait, c'est sûr, si on regarde un peu ce que je viens de dire, le contexte, hein, il faut essayer de voir un peu, là, OK, là, c'est quoi les gens vivaient, c'est quoi le contexte un peu de l'épître, qu'est-ce que les gens, à quoi qu'ils étaient confrontés. C'est que peut-être que ce fardeau-là, ben, on peut le comprendre. Ça serait quoi dans le contexte de l'auteur ici en parlant aux Hébreux, par exemple? Parce que regardez ici, mettons, c'est sûr, c'est dans une autre épître, mais dans Galates, c'est marqué au chapitre 1, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Et si on va un petit peu plus loin encore dans Galates, hop, là je suis revenu, ah OK, on va rester là pour l'instant. À la lumière de un peu de ce qu'on voit, on pourrait dire avec assurance, possiblement, que les traditions hébraïques continuaient quelque chose qui n'a plus sa raison d'être, dans le fond. Est-ce que ça nous ralentit? Ben oui, parce que là, on va passer du temps, on va mettre des efforts là-dedans. Hein? Donc, continuer une espèce de routine religieuse, peut-être, on pourrait le voir comme ça, qui n'est pas mauvaise, mais dans le fond, on n'a pas besoin de faire ça. Eux autres n'avaient pas besoin, là, ils étaient encouragés à dire, « Hey, c'était super important, là, l'ancienne alliance, les sacrifices, les sacrificateurs, tout ça, ça avait sa place. Maintenant, ça n'a plus sa place. Concentre-toi sur le Seigneur. Mets tes efforts sur le Seigneur. » Est-ce qu'on pourrait dire peut-être que, pour nous, la satisfaction de notre état? Hein? Je suis satisfait de mon état. Le Seigneur m'a sauvé, puis gars. Puis gars, je m'applique aussi peut-être à... Tu sais, c'est toutes ces choses-là sont bonnes. Hein? Je pourrais dire, je prie... Je lis, j'assiste aux rencontres. Mais je veux dire, ça devient ça, on dirait que ça va surpasser la personne du Seigneur. Hein? On fait ça, là, puis là, on est content. Oh, j'ai lu, j'ai prié, je suis venu à la rencontre. Il y a comme une satisfaction de notre état. Ça devient rituel, hein? Est-ce qu'un rituel, c'est mauvais? Non, on peut avoir un rituel des fois pour certaines choses, c'est important. notre frère là, qui fait un peu de l'aviation, hein, quand tu embarques dans ton avion, tu as un rituel à faire peut-être de vérifier des affaires pour être sûr que l'avion va bien ou en tout cas, je dis ça de même, là, peut-être je me trompe. Mais hein, il y a des choses qui sont importantes à faire, si on ne les fait pas, c'est dangereux. Mais dans la vie spirituelle, ça peut être dangereux parce qu'on se contente de ça. Puis là, on n'est plus ouvert à d'autres choses. On n'est plus ouvert à ce que Dieu peut nous montrer aussi. On est satisfait de notre état. Un peu comme eux, ils étaient confrontés, on va continuer des traditions, puis tout ça. Mais c'est un fardeau. La ligne est toujours mince. Parce que je ne dis pas ici qu'il ne faut pas lire, qu'il ne faut pas prier. Je veux dire, si vous ne le faites pas, c'est un autre problème. C'est toujours avec notre intention de cœur. Puis qu'est-ce qu'indirectement on veut aussi recevoir de ça? Hein? La satisfaction, ah, Dieu peut-être, il m'aime plus. Parce que, gars, j'ai fait les bonnes affaires. Dieu, il est content. Donc, il y a une satisfaction qui est là en nous. Hein? Ça, on développe une routine, puis on s'enlise dans notre routine. Enfin, on pourrait dire, des fois, le danger, c'est ça, même nous, ce qui nous guette, c'est d'être plus religieux que d'être attaché à la personne du Seigneur. On tombe dans la religion. On fait les choses pour peut-être être aimé, comme Robert dit, des fois même dans notre service, on fait des choses, on fait ça pour être aimé. On fait ça pour avoir de l'attention. Mais on n'est pas complètement là, on n'est pas complètement attaché à Dieu dans notre affaire. Puis un peu la religion, bien c'est vrai que c'est dur de se débarrasser de la religion. On a grandi dans ça, possiblement la plupart d'entre nous, dans un style de religion. C'est que la religion, souvent, qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne le sentiment d'être correct. Je suis correct devant Dieu. Je me souviens, moi, avant de me convertir, j'étais à Toronto, puis j'allais à l'église. Puis là, je regardais dans l'église, puis il y avait pas de jeunes comme moi, là. Puis là, je me disais, Seigneur, il m'aime. Puis là, un frère, quand il a commencé à me parler du Seigneur, j'ai dit, hey, toi, là, si moi, il ne me prend pas, il ne prendra pas personne, là, parce que je me compare à moi-même. Ce qui est une mauvaise chose à faire. Mais souvent, on se compare de même. « Ah, t'as-tu vu lui? » Puis là, on est meilleur. Ça fait que la religion, des fois, ça nous garde justement dans une espèce de bloc, là, puis ça n'avance pas, puis ça nous ralentit. Puis donc, en fait, ça devient encombrant et on peut être plus focusé sur la façon de faire les choses que sur la façon d'exprimer notre amour et reconnaissance envers celui qui a tout payé pour que nous soyons pardonnés. Se croyant libre, bien, nous demeurons esclaves de la religion. Les autres étaient esclaves un peu de ça, là, d'une certaine façon. Gardaient des habitudes. Plutôt que de se détourner de ça, puis de s'engancer vers le Seigneur, libre. Quel serait un autre fardeau qui ralentit notre course? Bien, je crois qu'il est intimement lié à notre satisfaction, à notre routine. L'autre fois, je lisais un article où l'auteur demandait pourquoi pas plus de croyants depuis la fameuse COVID, depuis les fameuses mesures sanitaires, ces gens-là avaient décidé de ne pas revenir en présentiel. Selon lui, bien, il ne fallait pas chercher midi à 14 heures. Que peut produire la satisfaction avec le temps? L'insensibilité. Je suis tellement bien dans mon affaire. Je suis plus sensible. Je perds la sensibilité des autres, de ce qu'ils vivent, de ce que quoi Dieu m'amène à vivre. Donc, un peu satisfaction, ça nous amène dans de l'insensibilité, ça nous amène dans de la routine. Puis on est bien dans cette routine-là. Il ne faut pas la changer. Il ne faut pas qu'on me dérange. Ça devient un fardeau parce qu'on ne peut plus être à l'écoute de Dieu. On ne répond plus à ce qu'il nous demande vraiment, ou on pense qu'on répond à ce qu'il demande. C'est comme en face de chez nous, on a un voisin, quand on est arrivé là, il était là, puis il reste encore là. Chez nous, ce qu'on reste, il y a comme un terre-plein, là, c'est un boulevard, donc on est d'un côté du boulevard ici, il y a un terre-plein, l'autre côté le boulevard, puis lui, il reste l'autre bord. C'est qu'à un moment donné, les enfants étaient jeunes, on avait une vanne, on était en train de la laver un samedi, là, je le vois traverser. Puis là, ce monsieur-là, jamais il m'avait parlé, puis on n'avait pas eu l'occasion vraiment. Là, il s'en venait vers moi, j'ai dit, je suis sûr, il va s'en aller à gauche ou à droite. Mais non, il s'en vient nous voir. Puis là, en plus, il dit, hey, il dit, vous autres, vous êtes des évangéliques. Il ne dit pas des évangélistes. J'ai resté surpris, parce que souvent, les gens, ils nous disent, ah, vous êtes des évangélistes, vous autres. Il dit, vous êtes des évangéliques. Là, il dit, je vous regarde depuis des années. Puis là, il commence à parler, tout ça. Ça fait que ce monsieur-là, bien, encore aujourd'hui, l'autre fois, j'étais allé dîner avec lui. Puis, mais lui, il est satisfait de son état. Il pratique la religion, il est fidèle, mais je veux dire, si tu y parles de quelque chose, juste pour un peu voir où ce qui est rendu dans son cheminement, il n'est pas intéressé. Il est satisfait, il est bien, il est sûr de lui. Il ne peut pas faire grand-chose avec ça, à part d'être avec lui, l'écouter. Puis comme je dis au Seigneur, quand je suis avec ce personnage, je dis, Seigneur, dis-moi, aide-moi à lui dire quelque chose dans ce qu'il va me dire qui va l'emmener peut-être à aller plus loin. Comme l'autre fois, il dit, hey, j'ai commencé à lire la Bible. Ben oui, ben là, je l'ai encouragé, hein? Mais il est content de son état, il est satisfait. Il ne change pas. Ben, en tout cas, pour l'instant, on est encore en relation, puis je prie pour lui, puis j'ai dit, Seigneur, montre-lui son besoin, montre-lui son état. Parce que quand on veut parler de ça, là, il n'est pas réceptif. Lui, il est correct, tout ça. Là, c'est sûr, ça, c'est le voisin d'en face. Mais comme je dis, nous, notre état, est-ce qu'on est satisfait? Est-ce qu'on on est comme d'une espèce de routine? On a perdu, là, ça nous ralentit. Puis qu'est-ce que ça l'amène? L'insensibilité, bien, ça amène aussi de l'indifférence. Hein, l'indifférence, c'est, bien, j'écoute ce que tu dis, là, je vois qu'il y a un besoin, mais ça rentre là, puis ça passe l'autre bord. L'Église a des besoins, ça rentre là, ça sort là. Je suis indifférent. Je reste comme ça, je suis insensible. On pourrait dire, bien, je ne fais rien de mal, je suis ici, là, je participe quand même, je donne ma dîme, puis tu sais, je fais mes lectures, puis tout ça. Bon, c'est parfait, là. Comme je dis, on est appelé à faire ça aussi, mais on a perdu notre sensibilité. On est tombé d'une routine. Ou on pratique certaines choses encore en pensant qu'en faisant ça, Dieu est satisfait de nous, Dieu nous aime plus. Dieu ne peut pas nous aimer plus qu'il nous aime déjà. Hein? Il a prouvé son amour en donnant son Fils à la croix, qui dit. Donc, encore là, on pourrait dire le mot fardeau, on pourrait dire, tu sais, ce n'est pas nécessairement un péché en soi, ou en tout cas, c'est des choses là, qui nous ralentissent, mais qui peuvent nous emmener dans le péché, on va le voir tantôt. Donc, l'indifférence. Je suis là de corps, mais mon cœur un peu haut. Je cherche plus mon confort. Je fais plus les choses qui me tentent, je deviens sensible, comme je dis, moins concerné par les besoins générés par une communauté de croyants. J'évite de prendre une place significative dans ma communauté, tout court. Pourquoi? Parce que ça va me demander. Je suis bien moi comme ça. Je viens, puis quand j'étais à Toronto, justement, il y avait un Québécois, en tout cas, aujourd'hui, malheureusement, ne suit plus le Seigneur, mais je comprends pourquoi. Lui, il allait dans des grosses églises à Toronto. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas se faire accrocher par personne. Lui, il allait là pour le spectacle. Le samedi, là, dans un des journaux de Toronto, là tu avais des églises qui annonçaient qui venait parler. Hey, là, une grosse chorale, le dimanche, va être là. Hey, on va aller voir ça. Puis quand c'est fini, bien là, il y a tellement de monde que là, tu sors puis personne ne te parle. Lui, il ne voulait pas ça. Quand il est revenu au Québec, imaginez-vous, là, des églises comme ça, il n'a pas bien. Ça fait que c'est des églises petites. Ça fait que là, en allant là, petite, bien là, les gens veulent s'intéresser à toi, là. Mais toi, tu ne veux pas. Dans Hébreux, hein, ça nous dit ici un verset qu'on connaît bien aussi. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait, non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide, bon, est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Des fois, je me dis, Seigneur, est-ce qu'on est plus, c'est ça, des gens qui reçoivent que des gens qui font? Ça veut dire ce qu'on entend, on veut le mettre en pratique, on veut être disponible, ça va demander des efforts, ça va demander du temps. Hein, un matin, c'est le fun, là, on vient, on a des chants, une âme donne un beau témoignage, là, je vous apporte la parole. Bon, on sort, des fois, on dit, bon, j'ai rien appris peut-être, ou je savais tout ça. Ou bien, mais c'est ça, des fois, je me dis, Seigneur, oui, on a besoin d'entendre, mais on a besoin aussi d'agir. Ces gens-là, bien, gars, ils leur disent ici, là, vous devriez être des maîtres. Hein? Pourtant, ça fait longtemps que vous entendez la parole de Dieu, ça fait longtemps. Pourtant, on est obligé encore de vous, essayer de vous réexpliquer certaines choses. Bon, le jugement est exercé par l'usage de discerner. Bon, quelque part, il mettait en pratique là, ce qu'il entendait. Est-ce que ça nous ralentit? Hein? Est-ce qu'on est des maîtres aujourd'hui? Dans le sens, pas des experts, mais on devrait être avancé. Pas juste dans notre coco, mais dans notre pratique. Où est notre pratique? Hein? Ça nous ralentit, ça. Parce que si on ne le met pas en pratique, on n'a pas d'influence. Hein, M. Street, là, qui parlait de l'influence du Saint-Esprit, tout ça, quelque part, cette influence-là vient de ce qu'on a reçu la parole de Dieu, puis on la met en pratique. Je ne dis pas que vous ne la mettez pas en pratique. Je vais juste dire, moi, Jean, là, je suis où là-dedans? Est-ce que je traîne quelque chose ici? Est-ce que je suis satisfait de mon état? Est-ce que j'ai développé de l'insensibilité? Il se passe quelque chose ici, je ne prends pas de place. Je suis juste un visiteur. Je suis assis, j'écoute. J'aime ça, mais c'est ça. J'ai pas le goût de faire rien, puis ça va me demander. Jean-Claude?
Oui, bien, parce que ça fait drôlement penser que l'apôtre Paul a développé son carrière, donc tu nous amènes ce matin de façon similaire, mais c'est dans Philippiens 3, de 12 à 14, il dit c'est pas que tu es déjà atteint la perfection.
Exact.
Il y a ce qui est en arrière, c'est le fardeau inutile. Il dit je cours vers.
Oui.
Il courait pour saisir l'Évangile. Il dit, comme j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ, il y a une comparaison ici. Là. C'est de la façon qu'on comprend que Dieu nous a sauvés, c'est de marcher maintenant avec la même énergie que lui a déployée pour nous sauver. Tu vois? Et ça va exactement dans le même sens, mon frère, que ce que tu nous enseignes ce matin.
Mais tu sais, c'est ça, c'est de s'encourager, comme on dit. On ne veut pas se fouetter à matin. C'est juste des fois, il faut faire des constats, il faut essayer de voir, OK, j'en suis où là-dedans? Puis, Seigneur, à quoi tu m'invites, dans le fond, à me débarrasser de tout ça? Bon, bien, c'est ça, hein, on a une grosse journée aujourd'hui de 11h35. Je vais arrêter là. La semaine prochaine, je vais continuer. On va poursuivre, on verra qu'est-ce qu'on pourra faire la semaine prochaine. Peut-être qu'on ne terminera pas non plus, mais on va pouvoir prendre le repas du Seigneur, puis on va pouvoir, justement, c'est ça, nous libérer pour se rendre, aller aider William s'il est là, s'il a besoin, tout ça, d'être avec les gens là-bas. Ça fait que, frères et sœurs, bien, je sais que Irénée, d'habitude, hein, tu passes...